Kiosque Magazine.
Alors bonjour tout le monde en ce beau lundi matin à notre merveilleuse émission Kiosque Magazine qui habituellement j'anime. Mon nom est Serge Hamelin en compagnie de Roger Roy qui lui est absent ce matin, mais j'ai une belle présence à mes côtés qui assiste pour la première fois. On va la laisser parler. Elle s'appelle Janine
Petitbois.
Oui, alors bienvenue Janine. Que nous vaut l'honneur de votre présence ce matin?
Eh bien, ça me fait plaisir d'être ici. Je voulais quand même voir un peu comment ça fonctionne. J'espère avoir l'opportunité de peut-être travailler avec vous.
Bien, sûrement. Si vous êtes aussi fine que vous en avez l'air, vous aurez probablement l'occasion de me remplacer à un moment donné.
Éventuellement, peut-être, lors de vos absences, peut-être.
Oui, parce que, oui, j'ai des absences, en effet.
Non, je veux dire, dans vos vacances.
Oui, effectivement, j'en aurai bientôt à Puerto Vallarta. Bon, oh, OK, alors on commence l'émission. Ce matin, j'ai glané, j'ai puisé des articles dans la revue Protégez-vous et Le Bel Âge. J'ai gardé ça simple parce que Roger, habituellement, en a de son côté, lui, dans la revue Actualité, mais là, il n'est pas là ce matin. Alors, moi, j'y vais dans la revue... dans la revue Protégez-vous. Et c'était un article qui était écrit par Frédéric Berg. Et puis, on retrouve ça à la page 43. C'est dans la revue de septembre 14. C'est d'actualité. La raison est très simple. C'est qu'on parle d'antirouille. Pas pour nous, mais pour les autos. Okay. Alors, mieux vaut prévenir. Ben, il a commencé à neiger. Alors, les gens, on y pense. Hein? Est-ce que je fais? Oui, bon, mais c'est mieux qu'on le fasse. Qu'elle touche la carrosserie, le châssis ou les pièces mécaniques, la rouille commencera à être visible à partir de 5 ans. Alors, mieux vaut faire traiter votre voiture avant de constater les dégâts. Mais à quel coût? Bon. Alors, un traitement anti-rouille est un investissement raisonnable pour un véhicule que vous souhaitez garder longtemps. C'est un outil de protection qui vous aidera à maintenir sa valeur de revente, explique Jessica Ron, recherchiste automobile chez CAA Québec. Et cet avis trouve écho à l'Association pour la protection des automobilistes, APA. Et selon le conseiller Sébastien Lajoie, si votre véhicule est neuf, vous tirerez des bénéfices dès sa quatrième année d'utilisation. Et votre voiture n'est plus très jeune et vous ne l'avez jamais fait traiter, alors mieux vaut tard que jamais, ajoute-t-il. Et produits et ateliers vers qui vous tournez? Ben voilà la question. Il existe sur le marché différents types de traitements. L'huile liquide, l'huile semi-solide, la graisse et le traitement permanent. Et tous les produits présentent des avantages et des inconvénients, explique Jessica Ron. Et peu importe le traitement choisi, c'est la qualité de l'application qui est le gage d'une bonne protection. Et certains ateliers et concessionnaires proposent aussi un dispositif anti-rouille électronique. Ah bon? Ce dernier est toutefois déconseillé par tous les experts que nous avons consultés. Et quelle est la meilleure option pour votre véhicule et surtout où obtenir les traitements les moins chers? Protégez-vous a fait son enquête. Protégez-vous a contacté 58 ateliers qui proposent différents types de traitements. Huile liquide, huile semi-solide, graisse et traitement permanent. Nous avons obtenu les prix pour deux véhicules, une Hyundai Elantra 2014 et un Ford Escape 2014. Nous mentionnons dans les tableaux des pages 44 à 46 uniquement les noms des chaînes et des franchises et les prix relevés entre le 1er et le 15 mai 2014, arrondis au dollar près. Bon, alors, l'huile liquide. La fluidité de l'huile liquide fait en sorte qu'elle se diffuse par capillarité, un peu comme de l'eau sur du papier essuie-tout. Et cela lui permet théoriquement d'atteindre la plupart des recoins sans qu'une application très précise soit nécessaire. Et ce produit ne sèche pas en place, contrairement à l'huile semi-solide ou la graisse. Ainsi, il continue à se disperser longtemps après l'application et c'est pourquoi certains véhicules... abondamment, l'huile pourrait coûter... Alors, c'est pourquoi certains ateliers ont tendance à en mettre plus que moins. Et cependant, si le technicien asperge votre véhicule abondamment, l'huile pourrait couler durant quelques jours après le traitement, surtout s'il fait chaud. L'huile adhère moins longtemps aux surfaces traitées que la graisse. Autrement dit, elle est plus vite lavée, notamment par la pluie, la neige et les projections de la route, le sel, le gravier, les saletés, etc., etc. Et la fréquence de traitement, un traitement complet ne s'impose pas nécessairement tous les ans. Plusieurs détaillants préconisent une inspection annuelle et appliquent le produit seulement aux endroits où il en manque. Et le coût du traitement, au total, 15 des 58 ateliers que nous avons appelés proposent le traitement à l'huile liquide. Et l'application complète du produit coûte de 60 à 120 $ pour une voiture compacte. Duratec, les centres qui offrent le produit Crown, ainsi que certains ateliers indépendants facturent 10 % de plus pour un véhicule utilitaire sport VUS. Antiroy Métropolitain fixe un prix unique, quelle que soit la voiture traitée. Alors donc, Duratec, 90 $, Antiroy Métropolitain, 93 et Crown, 120 $. Et les ateliers indépendants, ça joue entre 60 et 120 $. Mm-hmm. L'huile semi-solide. Eh bien, ce produit conserve en partie la fluidité de l'huile liquide au moment de l'application. Il contient un additif, souvent de la cire, de la paraffine ou du silicone, lui permettant de se solidifier une fois pulvérisé et tout en demeurant plus visqueux que la graisse ou les traitements dits permanents. L'huile semi-solide ne coule pas, à moins que le technicien en applique une très grande quantité. Et cela est toutefois inutile puisque le produit adhère davantage aux parois que l'huile ordinaire. Et comme elle finit par épaissir, l'huile semi-solide se propage moins avec le temps que sa version liquide. La précision d'application importe donc plus que la quantité. Et comme dans le cas de l'huile liquide, certains ateliers recommandent un traitement complet chaque année alors que d'autres ne réappliquent le produit qu'aux endroits où cela est nécessaire. Et le coût du traitement, c'est entre 55 et 120 $. Et l'huile semi-solide est le traitement le plus répandu sur le marché. 42 des 58 ateliers, alors que l'huile liquide était recommandée par 15 des 58 ateliers. Donc, on y va pour l'huile semi-solide, finalement. Hein? Mm-hmm. Alors, Canadian Tire, 70 $, Vitro Plus, 90, Permashine, 90, Monsieur Muffler, 90. Alors, c'est dans les moins chers. Bon, et puis ensuite de ça, ben, y a la graisse. Ah, ben, là, la chère graisse. Épaisse et très visqueuse, la graisse adhère efficacement aux surfaces traitées, qu'elles soient exposées ou non aux projections de la route, sel, gravier, saleté. Elle reste aussi en place beaucoup plus longtemps que l'huile liquide ou semi-solide. En revanche, sa texture l'empêche de se disperser aussi librement dans les recoins éloignés et vulnérables que les traitements à l'huile. Et la graisse a tendance à s'accumuler à certains endroits, par exemple dans le bas des portières. Elle peut alors boucher des trous d'évacuation d'eau, retenir l'humidité et favoriser la corrosion plutôt que la retarder. Demandez à l'atelier d'examiner ces orifices lorsque viendra le temps d'effectuer les retouches au traitement initial. Et parmi les 58 centres contactés, seulement 5 ateliers indépendants l'offrent. Alors, voyez-vous que ce n'est pas très populaire. Mm. Alors, on y va pour l'huile semi-liquide ce matin. Puis le traitement, ben, oh, le traitement permanent, lui. Oh, ben là, celui, c'est il est cher. Hein? C'est 369 $. Et puis seulement 8 offrent ce type de traitement dans les 58 centres contactés. Alors, bon, ça confirme qu'on y va pour l'huile semi-liquide ce matin. C'est tout. Bon, on y va avec les hypothèques ce matin. Rémi Leroux nous en parle dans la revue Protégez-vous toujours de septembre 14. Le taux n'est pas tout. Non. Les taux hypothécaires demeurent faibles depuis plusieurs années, mais ils varient tout de même d'une institution financière à l'autre. Or, le chiffre le plus bas n'est pas toujours la meilleure offre. Et comment choisir? Au 23 juin 2014, on trouvait, dans divers établissements bancaires, des taux fixes sur 5 ans, compris entre 2,89 et 4,99. Pour un financement de 200 000 $ amorti sur 25 ans, ça se traduit par des mensualités variant de 935 à 1162 $. S'il est tentant de se précipiter sur le taux le plus bas, d'autres éléments sont à prendre en compte pour faire des économies à long terme. Pourquoi tant de fluctuations? L'Association des banquiers canadiens explique que de nombreux facteurs font fluctuer les taux d'intérêt à l'échelle du pays. Par exemple, lorsqu'il y a plus d'emprunteurs que d'investisseurs, cela occasionne une rareté de l'argent prêté, donc une hausse des taux. Et quand l'inverse se produit, les taux diminuent et l'inflation entre aussi en jeu. Et dans le cas des taux variables, il faut également considérer le taux d'escompte de la Banque du Canada, revu 8 fois par année. Et par la suite, chaque banque ajuste ses taux en fonction de divers paramètres, notamment la recherche de profit. De plus, les offres varient selon le profil de chaque client et certains taux seront par exemple réservés aux consommateurs qui ont d'excellentes cartes de crédit ou des mises de fonds généreuses, indique Idriss Boumouche, directeur du développement des affaires au Québec pour le site de ratehub.ca. Attention aux petits caractères. Un taux d'intérêt varie également en fonction des conditions associées au prêt lui-même. Ainsi, un prêt hypothécaire ouvert a souvent un taux plus élevé et un terme plus court qu'un prêt hypothécaire fermé chez CIBC, par exemple, en juin 14. Le prêt ouvert à taux fixe était 6,35 sur un an, alors que le prêt fermé à taux fixe était à 4,99 sur 5 ans. Il est donc important de vérifier si l'offre n'est pas trop restrictive. Voici quelques suggestions à poser lors de votre magasinage. Quel sera le montant des pénalités en cas de bris de contrat? Si vous souhaitez résilier votre hypothèque pour en contracter une plus avantageuse, vous paierez une pénalité, calculée sur le solde qu'il vous restera à acquitter et certains frais administratifs peuvent s'ajouter. L'hypothèque est-elle transférable à une autre propriété? C'est une option avantageuse, par exemple, pour un couple en condo qui prévoit avoir des enfants et déménager. Et quelles sont les options de paiement anticipées? Si vous optez un prêt hypothécaire fermé, des frais pourraient s'appliquer lorsque vous effectuez des paiements anticipés en fonction notamment du montant de votre prêt, du solde encore dû et de la somme que vous souhaitez rembourser. Il y a généralement une limite à ne pas dépasser. Okay? Si votre prêt hypothécaire est ouvert et ses frais sont inexistants, peut-on convertir un taux variable en taux fixe en cours de terme et sous quelles conditions? La conversion est généralement acceptée sans pénalité par les institutions, mais le taux fixe à leur proposer est rarement avantageux puisqu'il ne peut être négocié, explique Jean Nagal-Taillefer, planificateur financier et conseiller en sécurité financière indépendant. Enrichissez votre vocabulaire. Avant de négocier, il faut vous familiariser avec deux concepts de base. Ouvert ou fermé. Si vous pensez vendre votre maison ou hériter d'un gros montant d'argent sous peu, est-ce qu'on va hériter sous peu? Je ne sais pas, je ne pense pas. On ne sait jamais, un prêt hypothécaire ouvert serait avantageux pour vous. En effet, il vous donnera le droit d'effectuer sans pénalité des remboursements anticipés en plus de vos paiements préétablis. Vous pourriez même, si vous le souhaitez, payer votre solde hypothécaire d'un coup avant la fin du terme. Oh, c'est fin. Un prêt hypothécaire fermé ne peut pas être modifié avant son échéance. Il arrive néanmoins que des prêteurs acceptent des paiements anticipés sous certaines conditions, par exemple possibilité de rembourser 10 à 25 du capital emprunté chaque année à la date anniversaire du prêt. Et le taux fixe ou variable, si vous optez pour un prêt hypothécaire à taux fixe, le montant de vos paiements ne changera pas durant toute la durée du terme, 5 ans par exemple. Dans le cas d'un prêt hypothécaire à taux variable, le taux d'intérêt varie en fonction de l'évolution du marché. Les paiements hypothécaires peuvent être fixes ou variés en fonction des taux d'intérêt. Alors, demandez de l'aide. Magasiner un prêt hypothécaire peut se révéler laborieux. Pourquoi alors ne pas faire appel à un courtier? Le courtier a accès aux produits hypothécaires, de nombreux prêteurs et peut les comparer afin de trouver le prêt qui conviendra le mieux au profil du client, explique Robert Nadeau, président de l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec, OACIQ. S'il parvient à placer votre prêt auprès d'une institution, c'est elle qui le rémunérera. Ah, ça, je ne savais pas. Vous n'aurez donc rien à débourser. Alors, hein, on va demander de l'aide ce matin. Est-ce que ça vous convient, vous?
Ça serait intéressant.
Bon, ben, on termine là-dessus. Merci beaucoup.
Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y. Chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la qu'elle est belle ta vie. Tous les ruisseaux font des fugues au soleil. Toutes les fleurs des romances aux abeilles. Même la pluie joue une symphonie. Dis-moi pourquoi tu serais triste aujourd'hui. Chante, chante, chante là ta chanson. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait aussi. Chante-la ta chanson, n'aie pas peur, vas-y, chacun a sa mélodie au fond de lui. Chante-la ta chanson, elle est sûrement jolie. Chante-la, qu'elle est belle ta vie. Chante-la ta chanson, la chanson de ton cœur, la chanson de ta vie. Chante-la ta chanson, l'oiseau le fait, le vent le fait, l'enfant le fait.
Petite oui. Chanson. Mioza. Oui, j'allais dire Myosotis, mais non, c'est Mioza. C'est beau, c'est joli comme nom. OK, chante-la ta chanson. Eh bien, on poursuit ce matin. Vous êtes assis confortablement ce matin? Ça va bien, Janine?
Oui, c'est très agréable. Ouais,
très bien. Alors, je vais vous raconter une belle histoire. C'est l'histoire... Ben, c'est Paul Toutant qui a écrit cette histoire.
Ouais.
Qui n'est pas une histoire, bref. C'est une autobiographie. Enfin, c'est l'histoire de quelqu'un que tout le monde aime bien au Québec, qui s'appelle André Sauvé.
Ah oui, très
l'humoriste.
Oui.
Alors, on va en connaître davantage ce matin. Alors, tout le monde est installé avec le café, le thé, la tisane ou un verre d'eau simplement, bien installé dans son fauteuil et on écoute la belle histoire que nous raconte Paul Toutant sur André Sauvé. On demande souvent à l'humoriste André Sauvé s'il est réellement fou. Eh bien, un autre que lui s'offusquerait de cette question, mais lui s'en réjouit. « Ça veut dire que je fais mon métier correctement, sans doute », dit-il. À 48 ans, ce drôle de bonhomme poursuit une carrière atypique en exposant sur scène ses maladresses et ses angoisses les plus intimes. Et le grand maigre frisé n'est peut-être pas timbré, mais il s'amuse sur une corde raide au-dessus d'un gouffre, prêt à l'engloutir à tout moment. La cassure. André Sauvé dit avoir eu une petite enfance très heureuse. Né dans une famille de 5 enfants rejetons, il grandit à la Chine, près de Montréal, en compagnie d'une flopée de cousins et de cousines qui s'adonnent ensemble à tous les jeux imaginables. Ce sont les années bonheur. Son père, dessinateur industriel à la Dominion Bridge, adore amener les enfants en balade. Mes parents étaient très dévoués, se souvient-il. Ils ont tout fait pour nous assurer confort et sécurité. Et c'est à l'adolescence que tout bascule pour André. Il fréquente une école de métier où le théâtre et la musique brillent par leur absence. Attiré par les arts, il constate que ses camarades d'école ne s'intéressent qu'à des niaiseries. Leur plus grand but dans la vie, dit-il, c'était de provoquer des batailles dans la cour de récréation. Et le maigrichon de la classe est nul en éducation physique, et il lui semble que son grand corps n'est jamais dans la bonne position. Et c'est toujours lui qu'on choisit en dernier pour former des équipes sportives. J'étais complexé, bon dans rien, je vivais l'enfer au quotidien. Et heureusement, André possède un don inné pour faire rire les autres élèves. Il imite les professeurs, devient le clown de la classe et réussit ainsi à ne pas se faire battre par les brutes qui l'entourent. Mais certains soirs, dans sa chambre, il veut mourir. À quoi sert la vie si c'est pour niaiser ainsi jour après jour? Je me cherchais, poursuit-il, sans savoir où aller. Je sentais confusément que je voulais devenir un artiste, mais il n'y avait autour de moi aucun chemin qui y menait. J'ai rencontré un orienteur qui m'a suggéré de faire une carrière militaire. Franchement, sans amis véritables, le jeune André Sauvé s'isole encore plus. Et aujourd'hui, dit-il, je vois parfois des adolescents mal dans leur peau et je me dis que je ne voudrais sous aucun prétexte revivre cet âge-là. Je ne voyais pas d'issue à mon malheur, je n'avais aucune oreille amicale à qui me confier. Il trouvera le salut dans les livres, de façon autodidacte, et découvre les grands auteurs et leurs univers fascinants. Gabriel Leroy et Régent Ducharme le transportent dans des mondes inédits avec leur voix si personnelle. Et plus je lisais, raconte-t-il, plus je m'enfermais dans ma solitude, mais plus je sentais que d'autres avaient vécu l'isolement avant moi. Et mes professeurs ne m'encourageaient pas, mais j'ai persévéré et lu tout ce qui me tombait sous la main. Pendant ses études secondaires, André travaille comme apprenti aux cuisines du couvent des Sœurs de Sainte-Anne en face de chez lui. Il met des sous de côté et après une seule session au cégep, il étouffe et décide de partir en Europe pour 2 mois. « Ça m'a sauvé la vie », dit-il en prenant une grande respiration. « J'y suis resté 1 an, d'abord en Belgique, mais par la suite en Égypte et en Israël. Et c'est là que j'ai découvert des humains parlables et vu que tous les futurs sont possibles. Je n'avais que 18 ans et ma seule expérience de voyage avait été un week-end de camping à Sainte-Agathe. Mes parents ont mouru de peur. Surtout quand j'étais au Moyen-Orient, ils voyaient la violence à la télévision et voulaient m'envoyer de l'argent. J'ai refusé. À son retour, il quitte la Chine pour Montréal et entreprend le grand voyage que sera réellement sa vie. Un voyage vers où? Il ne sait pas encore. Une amie l'amène un jour à un atelier de danse. Et surprise, on lui demande de danser avec le groupe. Ça a été une révélation, dit-il. En 3 heures, je me suis réapproprié mon corps et j'ai découvert que je pouvais bouger autrement que de façon maladroite. Cette expérience le conduit à d'autres aventures. Il étudie le mime avec la troupe Omnibus, multiplie les ateliers d'expression corporelle et s'inscrit même à un cours de danse traditionnelle indienne, le Bharatanatyam. Pas facile ça, dit-il en riant. Il faut apprendre à respirer dans un cadre très rythmé, à poser ses pieds et ses mains de façon précise, et il y a 24 façons de placer ses doigts. Oh là là! Et les yeux doivent raconter une histoire. Ça fait beaucoup de choses en même temps, ça. Ça réveille le matin, ça. André s'inscrit également à des ateliers d'écriture qu'il adore. Puis, en 2004, à la suite d'une gageure, Il monte sur une scène pour décortiquer de façon hilarante le poème « Soir d'hiver » d'Émile Nelligan. Yvon Deschamps est dans la salle et coule de rire. La star prend alors André Sauvé sous son aile et c'est le début d'une carrière qui ne cesse de grandir depuis. L'humoriste ne croit pas au hasard. Je pense qu'on émet et qu'on capte des affaires, des formes d'énergie et la synchronicité fait le reste. À ma première ovation, je me suis rappelé l'histoire du lion élevé comme une chèvre. Il bêle jusqu'au jour où un lion adulte lui rugit en pleine face. Avec ses applaudissements, j'ai compris ma vraie nature. Ce rugissement de rire venant du public me terrorisait, mais il m'a révélé que j'étais né pour ça. Il avait une timidité maladive. Ça, on en reparlera éventuellement un jour, si on a le temps. Pour l'instant, on arrête là-dessus. Merci beaucoup.
Nous allons parler alimentation et démence. Au Canada, une personne sur quatre parmi les plus de 85 ans souffre de la maladie d'Alzheimer ou autre démence. Voici quelques conseils pour diminuer ce risque et conserver sa capacité de mémorisation à son maximum tout au long de sa vie. Contrôler sa tension artérielle. L'hypertension artérielle affecte les fonctions cognitives. Pour la contrôler, il faut surveiller ses apports en sodium et augmenter sa consommation de fruits, de légumes et de produits laitiers afin de faire bonne provision de potassium, de magnésium et de calcium. Surveiller sa glycémie. Le diabète de type 2 est un important facteur de risque de plusieurs formes de démence. En affectant les vaisseaux sanguins, l'hyperglycémie peut atrophier les cellules nerveuses. Une alimentation à faible indice glycémique, avec une abondance d'aliments riches en fibres et faibles en sucre concentré, est encouragée. La pratique d'une activité physique régulière permettra également un contrôle optimal du taux de sucre.
Ah ben c'est bien.
Oui.
Merci beaucoup.
C'est intéressant.
Oui.
Écoutez Kiosque Magazine.
Bon, on va parler psychologie ce matin. Jacqueline Simoneau nous en parle dans la revue Bel Âge, le Bel Âge de septembre 14. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est un sujet qui en touche plusieurs, vous allez voir. Certaines personnes arrivent facilement à trancher entre deux options. Pas vous. Même les décisions les plus banales vous apparaissent souvent comme un véritable casse-tête. Voici des moyens efficaces pour mettre fin à vos éternelles hésitations. Soirée ciné ou farniente, resto thaï ou italien, peinture ou papier peint, séparation ou pas séparation, ça c'est une grosse décision quand même. Hein. Le Sud ou l'Europe, changer d'emploi ou ne pas vous bouger. Alors, si de telles interrogations vous sont familières et que vous avez souvent du mal à vous prononcer, vous appartenez à coup sûr au clan des indécis. Et Rachel en fait également partie. Quand je vais au resto, je suis du genre à regretter mon choix dès que je vois le plat de la personne qui m'accompagne, raconte-t-elle. Avant une sortie, j'essaie au moins 3 ou 4 tenues Et même après avoir choisi, je doute encore. De plus, comme je n'arrive jamais à me décider, je laisse généralement les autres le faire à ma place, ce qui me cause de fréquentes déceptions. En ce moment, je pense déménager. Alors, je demande sans cesse à mes amis ce que je devrais faire selon eux. J'hésite. Si ça ne marchait pas. Et Jean est aussi un indécis chronique. Récemment, je suis devenu hyper stressé lorsque mes nouveaux collègues m'ont demandé de réserver des places dans un resto de mon choix, avoue-t-il. Alors, comme je n'arrivais pas à me décider, j'ai demandé l'avis de chacun. Résultat, je me suis retrouvé avec des suggestions différentes, ce qui a compliqué ma tâche. Et autre exemple, au magasin, je mets un temps fou à me brancher avant de faire le moindre achat. Pire, il m'arrive souvent de faire demi-tour avant d'arriver à la caisse parce que j'ai changé d'avis. C'est complètement ridicule. Avant d'avoir le temps, de temps à autre, de la difficulté à se décider, c'est normal. Surtout lorsque la décision peut avoir un impact radical sur sa vie, comme une rupture, ou un changement d'emploi. Puis, l'indécision passagère n'est pas mauvaise en soi, elle aide à se poser des bonnes questions, à peser le pour et le contre de chaque option et à évaluer les enjeux afin de choisir la meilleure solution. Mais quand les hésitations se répètent quasi quotidiennement, même à propos de choses anodines, c'est plus angoissant. D'autant que dans une société qui valorise la performance, l'indécision est souvent jugée comme de la faiblesse. À force de se faire dire « es-tu capable de prendre au moins une décision dans ta vie? Vas-tu finir par te décider? Ou je suis tanné de choisir à ta place? » On se sent vraiment minable, dit Rachel. Mais pourquoi donc certaines personnes mettent-elles un temps fou à se brancher, tandis que d'autres prennent une décision sans aucune hésitation. Les indécis sont souvent des personnes qui ont peur de l'échec, peur des conséquences, peur de la perception des autres face à leurs décisions, peur de déplaire aussi et peur de s'engager, indique Louise Fréchette, psychologue et psychothérapeute en analyse bioénergétique. D'autres ont du mal à trancher par crainte de rater quelque chose. Pour d'autres, c'est l'abondance de possibilités qui leur complique la vie. Dans notre monde de consommation, on est en effet confronté à une variété quasi infinie de choix. Et sélectionner simplement une brosse à dents, mon Dieu, à la pharmacie, relève du marathon. Oh, il y en a tellement de sortes. Ah, pas de bon sens. Et de toutes les couleurs. Il y a de quoi être confus. L'explosion du net, avec son flot d'informations, n'aide pas non plus les indécis. Il y a aussi les gens qui voient les choses en blanc et noir. Alors, pour eux, quand une décision n'est pas bonne, elle est carrément mauvaise. Ils ont du mal à concevoir que toute décision présente des avantages et des inconvénients. Ils visent donc le choix, the choice, comme on dit, le choix parfait. Les personnes orgueilleuses ou perfectionnistes ont également de la difficulté à se décider. Hélas, pour elles, il est impossible de tout contrôler ou de tout prévoir. Mais il y a plus. Selon la psychologue José Jacques, l'indécision est souvent le signe d'un manque de confiance ou d'estime de soi qui fait remettre en question son propre jugement. Et ces gens sont très sensibles à l'opinion des autres et ont besoin d'être rassurés quant à leur choix. Et parfois même, ils vont préférer attendre que les autres ou encore le temps décide pour eux. C'est une façon de ne pas assurer les conséquences de leurs décisions. Et il y a aussi les personnes qui, par méconnaissance d'elles-mêmes, ont du mal à exprimer leur goût et leur désir, et sans compter celles qui ont fait de mauvais choix dans le passé, et qui craignent de les répéter parce qu'elles n'ont pas su tirer profit de leurs erreurs. Heureusement, on va terminer bientôt là-dessus, la plupart des indécis ne sont pas ambivalents dans tous les secteurs de leur vie. Ainsi, vous pouvez très bien être super efficace lorsque vient le temps de prendre des décisions au boulot, mais avoir des problèmes à le faire en matière d'achat ou de loisirs. En identifiant l'origine de vos indécisions et les situations à risque, vous mettrez fin plus aisément à vos tergiversations. Et voilà. Mm-hmm. Bon, dans le critère, enfin, on vient de quitter la psychologie, on s'en va en société maintenant. Et puis, Françoise Genet, dans la revue Bel Âge, toujours, nous parle du jeu pathologique. Oh là là. Les dettes, mensonges, isolement, perte de contact avec la réalité. Le jeu pathologique gâche la vie des joueurs et de leurs proches. Une dépendance que l'on peut heureusement traiter et même prévenir. Gagner le gros lot, voilà un rêve que caressent bon nombre d'entre nous. Un rêve qui se traduit pour l'État en espèces bien sonnantes. En 2011 et 2012, loterie, casino, appareil de loterie, vidéo, ALV, bingo, ont fait entrer plus de 3 milliards. 658 millions dans les caisses de l'Auto-Québec. Une somme plutôt rondelette. Cela dit, les Québécois sont tout de même les joueurs qui misent le moins dans tout le Canada. Ah, ben ça, c'est une bonne nouvelle. Selon les données du dernier budget provincial, les dépenses par adulte pour les jeux de hasard et d'argent se chiffraient en 2012 à 583 $ comparativement à 770 dans l'ensemble du pays. Les Québécois, des joueurs modérés. Ah bon? Le Québec remporte également la palme du plus petit pourcentage de joueurs pathologiques au Canada. À peine 0,7% de la population contre 1,4% en Manitoba souffre de jeux pathologiques et environ 1,3% risque de développer cette dépendance. Au cours d'une année, près de 30% des Québécois ne jouent à aucun jeu de hasard. Et les 68,5% qui jouent sont des joueurs sans problème ou à faible risque. Et ces chiffres proviennent d'une étude effectuée en 2009 auprès de 11 088 personnes par Sylvia Kérouz, professeure agréée au département de sociologie et d'anthropologie de l'Université Concordia, et Louise Nadeau, professeure agrégée au département de psychologie de l'Université de Montréal. Contrairement à la croyance populaire, la dépendance au jeu est donc très peu répandue. Et bien moins que l'alcoolisme ou la toxicomanie, ajoute Louise Nadeau. Le jeu pathologique ne représente pas un enjeu de santé publique. Cela relève du domaine clinique. Néanmoins, il est important de mener à titre préventif des campagnes de sensibilisation visant les joueurs à risque. Et les personnes âgées, celles qui vont dans les casinos, le font pour s'amuser en groupe. Nos chiffres montrent qu'il n'y a pas plus de joueurs compulsifs chez les plus de 55 ans que chez les autres adultes. Il n'y a pas non plus de problème majeur avec le jeu en ligne. Attention toutefois, il ne faut pas confondre le cyberdépendance, la cyberdépendance, qui peut inclure les jeux vidéo, les jeux de patience ou de mots, etc., etc., avec les jeux de hasard et d'argent en ligne. Alors qu'en Europe, environ 6 % de la population joue à des jeux en ligne, au Québec, la proportion est de 1,4 % et parmi ces derniers, à peine 6 % ont une dépendance. Et ils jouent tous à d'autres jeux, d'après une étude qui s'est terminée en 2012, indique Mme Nadeau. Quand le jeu tourne au cauchemar, même s'il est peu répandu, le jeu pathologique est dramatique pour les quelques 42 000 Québécois qui en souffrent et pour leurs familles. De tels joueurs peuvent jouer et perdre leur maison, leur REER, faire exploser leur carte de crédit, emprunter partout et à tout le monde, même au risque de se frotter à des créanciers peu scrupuleux. Une fois devant leur machine, certains y restent des journées entières, négligeant de s'alimenter et même de rentrer pour se doucher. D'autres vont jusqu'à voler dans la petite caisse du bureau ou dans le sac à main ou les poches de leur conjoint. S'isolant de plus en plus, complètement obsédés par le jeu, ils négligent leurs amis, leurs enfants et leurs conjoints. Ils manquent leurs rendez-vous, s'absentent du travail, tricotent un tissu de plus en plus serré de mensonges pour pouvoir continuer à jouer. Et résultat, dans bien des cas, les proches découvrent l'ampleur du problème lorsque les créanciers frappent à la porte et que la situation est hors contrôle. Un choc d'autant plus brutal que la dépendance au jeu se développe souvent de façon fulgurante. À l'époque où il n'y avait que les pokers clandestins et les courses de chevaux, il fallait une moyenne de 14 ans pour... Pourquoi donc? Hein? Pour que le joueur à risque devienne dépendant. Hein? Aujourd'hui, avec les appareils vidéo, les loteries et les casinos, cette moyenne n'est plus que de 6 mois. Oh là là, ça va plus vite aujourd'hui. Hein? Tout va plus vite, explique Claude Boutin, psychologue à la maison Jean Lapointe. Le jeu en guise de drogue. Le jeu pathologique n'a été médicalement reconnu qu'en 1980. Le DSM-4, la Bible des troubles mentaux, indique qu'il faut un cumul de 5 des 10 critères cliniques répertoriés pour établir un diagnostic de jeu compulsif. Le jeu devient pathologique lorsqu'il est utilisé en guise d'automédication, explique Louise Nadeau. Et les gens qui ne jouent au casino ou au ALV que pour avoir du plaisir ou pour mettre un peu de piquant dans leur vie font preuve, selon nos données, d'une forte autorégulation, un mot-clé en matière de jeu. Et ces joueurs fixent une somme à miser et une durée de jeu qu'ils respectent. Ils ne sont pas à risque, mais ceux qui jouent pour calmer leur angoisse, fuir des émotions ou des situations difficiles dans leur vie, verront cette activité devenir rapidement pathologique. Alors, attention, hein, si vous voulez fuir quelque chose, allez pas jouer. C'est bon. Merci.
Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'irais me promener sur le bord de la Gaspésie. Si j'avais un char, ça changerait ma vie. J'aurais le nez dehors. Et toi aussi, ma jolie. Tous les deux, mon amour, on roulerait au jour le jour. Nulle part où s'arrêter. Si j'avais un char, j'en ferais ma maison. Toi, tu serais mon trésor et ça serait ma raison de vivre.
Eh bien, cette chanson pourrait peut-être s'appliquer si vous aviez un char. Si vous pensez à acheter un char, et c'est l'article, on va parler de « Quand la location a du sens », c'est Nadine Filion, dans Le Bel Âge, qui parle de ça. Vous l'avez sûrement déjà entendu, ce conseil, plutôt que de louer, mieux vaut acheter une voiture quand on veut la conserver longtemps. C'est vrai que cette façon de faire a du sens, sauf que, 3 petits points. Bon, alors la publicité dit: louer pour seulement 199 $ par mois, alors que la mensualité d'achat pour le même véhicule demande près du double. Attention, petite mensualité n'est pas synonyme de faible coût, prévient Éric Brassard, planificateur financier chez Brassard, Goulet et Argot et auteur du livre « Finances au volant », même que c'est une grossière erreur de penser que la location ne coûte pas cher. On s'en rend compte quand on regarde au-delà de la mensualité demandée, en commençant par l'un des éléments les plus importants du procédé, le taux d'intérêt. Ainsi, on notera au passage que les taux d'intérêt de la location sont souvent plus élevés que ceux de l'achat. Et en bon consommateur, on se rappellera que, idéalement, mieux vaut miser sur le plus petit taux d'intérêt possible. Mais les modèles loués semblent financièrement plus accessibles. C'est logique. En location, on ne paie qu'un temps déterminé d'utilisation du véhicule, mais voilà qu'il n'en réduit pas le coût véritable pour autant. Souvenez-vous qu'en fin de bail, le petit paiement aura représenté plusieurs milliers de dollars versés pour une voiture qui ne vous appartient pas. Mm-hmm. Vous voulez la rendre? Il faudra veiller à ce que les éraflures et l'usure des pneus ne soient pas au-delà de la normale, ou que le kilométrage qui vous a été alloué ne soit pas allègrement dépassé. Vous voulez la conserver? Vous devrez en débourser la valeur résiduelle, une somme qu'il vous faudra bien trouver quelque part. Après avoir lu notre encadré, cette dépréciation qui fait mal, vous comprendrez que ce qui est généralement le plus sensé, économiquement parlant, c'est de conserver sa voiture. La seule manière d'amoindrir le choc de la dépréciation, c'est de la répartir sur le plus grand nombre d'années possible, soutient Éric Brassard. Et cela dit, il arrive que la location ait autant, sinon plus, de sens que l'achat. Ainsi, les travailleurs autonomes et entrepreneurs savent que fiscalement, il est souvent plus avantageux de louer. Il existe d'autres circonstances où la location est plus intéressante qu'un achat. Et voici lesquelles. 1. Quand le taux est plus avantageux. 2. Alors, c'est où le 2? Hein? Bon, on va trouver le 2. Oui. Quand le budget est très serré. 3. Quand on veut changer de voiture comme de chemise. Et est-ce qu'il y a un 4? Je ne vois pas de 4. Il n'y a pas de 4. Donc, on arrête à 3. Vous avez retenu tout ça quand le budget est très serré, quand on veut changer de voiture comme de chemise. Et le numéro 1, quand le taux est plus avantageux. Les taux d'intérêt varient grandement selon les termes d'achat ou de location, mais aussi les marques, voire les différents modèles d'une même marque. Et il arrive que le taux de location est le même ou encore qu'il est meilleur que celui de l'achat. Cela devient alors une possibilité à considérer. Car à taux semblable, la location et l'achat sont deux options qui s'équivalent, dit M. Brassard. Et de fait, la location constitue un mode d'emprunt comme un autre, mais dont le solde n'est pas nul à l'échéance. Et ce mode d'emprunt, il faut néanmoins l'utiliser intelligemment. Ainsi, l'argent dégagé pourra être versé dans un REER qui fera épargner de l'impôt ou encore placé dans un CELI qui fait des petits à l'abri du fisc, histoire d'avoir sous la main de quoi racheter la voiture en fin de bail. C'est pas pire, hein? 2. Quand le budget est très serré, même si son taux d'intérêt est un brin plus élevé que celui de l'achat, une location peut être profitable dans le cas d'un budget très limité où quelques dollars par mois peuvent faire toute la différence. Mais il faudra se discipliner, les dizaines de dollars mensuellement épargnés devraient servir à rembourser des dettes à taux plus élevé, une carte de crédit par exemple. Aussi, attention à la valeur résiduelle établie par le concessionnaire. À la signature du contrat de location, plus elle est basse, plus vos mensualités seront élevées. Oui, vous vous retrouverez à assumer une trop grande part de l'utilisation du véhicule. Assurez-vous d'une juste valeur de revente en consultant les estimations du Canadian Black Book. Quand on veut changer de voiture comme de chemise, pour ceux qui aiment changer de voiture comme de chemise, la location a un net avantage sur l'achat, ça c'est sûr, elle établit à l'avance ce que vaudra le véhicule à la fin du bail. Et la voiture s'avère un citron ou a dû être réparée après une collision, un propriétaire devra fort probablement essuyer une perte à sa revente, mais le locataire aura l'avantage de pouvoir s'en débarrasser simplement en rendant les clés, sans se soucier de faire sa mise en marché, de rencontrer les acheteurs, d'en négocier le prix, etc., etc. Et il reste que ceux qui louent à perpétuité subissent encore et toujours la dépréciation si coûteuse lors des premières années d'un véhicule. De même, ils contractent de sempiternelles dettes automobiles en plus de payer des intérêts pour l'éternité. N'est-ce pas Woody Allen qui disait « L'éternité, c'est long ». surtout vers la fin. On termine là-dessus.
Ma chambre a la forme d'une cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre. Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Déjà j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embaumerait pas autant. Maintenant une seule fleur dans mes entourages me rend malade. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Je ne suis pas magnifique, être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler, non, je ne veux pas déjeuner. Je veux seulement oublier, et puis je fume.
Eh bien, on continue avec nos conseils pour diminuer le risque de la maladie d'Alzheimer et on veut bien conserver notre capacité de mémorisation. Donc, on continue avec nos conseils qui sont boire du café. La consommation de caféine réduirait le risque de démence.
Ah oui?
Et voilà.
Ah, vivement le café! Vive.
Les fonctions de mémorisation seraient mieux préservées chez les personnes qui consomment 3 cafés ou plus par jour.
Ah, ouais.
Le café décaféiné n'aurait pas le même effet.
Ah.
Voilà. Manger des bleuets aussi.
Ah, les bleuets.
Oui, toujours bon, les bons
bleuets. Du lac Saint-Jean ou d'ailleurs?
En autant que ce soit de bons bleuets, c'est bon, okay. Toujours quand même une forme. Alors, selon une étude, les femmes qui mangeaient des bleuets au moins une fois par semaine ont connu un déclin cognitif plus lent que celles qui en mangeaient rarement.
Ah, vous parlez des femmes, vous, qui mangez des bleuets?
Les femmes et les hommes. Là, on parle plutôt de la femme.
Ah, d'accord.
Considérant la concentration considérant la concentration en antioxydants de ce petit fruit, il est même recommandé d'en consommer plusieurs fois par semaine.
Bon.
Alors, allons avec les bleuets. Satisfaire ses besoins en vitamine D, les personnes qui ont un taux sanguin plutôt faible en vitamine D risquent plus que les autres de développer une démence. Les recherches sont préliminaires, mais il est sage de prendre chaque jour 1000 unités de vitamine D, du moins d'octobre à avril.
Alors, pour éviter une démence, allons-y dans la vitamine D, drette ce matin.
Oui.
On continue avec la pomme.
Alors, une pomme par jour, que l'on dit.
Ouais.
C'est toujours été dit que c'était très bon. C'est le temps des pommes. Fraîches et croquantes à souhait, elles sont au meilleur de leur goût. On connaît le célèbre dicton selon lequel une pomme par jour éloigne le docteur pour toujours. Mais qu'en est-il vraiment? Une pomme moyenne contient 72 calories et 2,6 grammes de fibres. Son contenu en fibres solubles, la pectine, en fait un allié dans le contrôle du cholestérol sanguin. Étant donné la richesse de ses composants anti-inflammatoires, la pomme pourrait également améliorer les fonctions respiratoires chez les personnes asthmatiques. Son rôle dans la prévention des cancers du poumon et du côlon est aussi à l'étude. Aucun aliment en soi n'est une panacée. On peut cependant affirmer que la pomme a plusieurs propriétés salutaires et qu'on a avantage à la mettre au menu régulièrement. Pour profiter de l'ensemble de ses bienfaits, mieux vaut manger la pelure où se concentre la pectine, non, excusez-moi, la non, c'est la pectine, mm-hmm. et les antioxydants.
Bon. Eh bien, la pomme, ça a l'air bon, hein?
Oui,
pas pour
pomme
rien
par
que
jour.
Monsieur chantait ma pomme. Hein? Alors, écoutez, merci beaucoup, Jeannine Petitbois, d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, ça a très bien été, franchement. Je salue Roger Roy, qui est en quelque part. Et puis, c'est Serge Hamelin qui salue tout le monde. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.
Au revoir.